Eh bien bonjour les amis, on est heureux de vous retrouver, voilà, pour un nouveau numéro des Clés de la Ville. Alors je vous le dis les amis, voilà, c'est the place to be. On est à Nice, dans un endroit magnifique. Bien sûr, cette émission, je ne pourrais pas la faire, comme chaque mois d'ailleurs, avec mon fidèle complice, Olivier Marin, rédacteur en chef du Figaro Immobilier. Salut Olivier.
Bonjour Sylvain. Le programme dans cette émission coproduite par Figaro Immobilier et Radio Immo, on a toujours le même principe, c'est-à-dire qu'on vous propose un tour de France chaque mois dans une ville pour échanger avec les acteurs du territoire et parler immobilier, parler logement, accès à la propriété, financement. C'est l'occasion de dresser un état des lieux des marchés dans le neuf et dans l'ancien et de découvrir les réalisations en cours, les petits comme les grands projets. Alors pour cette émission, à titre exceptionnel, un grand témoin qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui, Éric Ciotti, maire de Nice. Ce sera l'occasion d'en savoir un peu plus sur les orientations en matière de politique du logement à l'échelle locale. Il sera beaucoup question dans cette émission d'immobilier, de fiscalité, d'aménagement en matière de taxes foncières, de propriété, de coopération entre le public et le privé, de logement social, de nouvelles formes d'habitat, de mixité, d'intergénérationnel, d'investissement locatif, de patrimoine, beaucoup de choses. Et pour nous accueillir aujourd'hui dans son siège régional, le représentant de Next City, directeur général de la région Sud, membre du COMEX, Lionel Séropian. On évoquera avec lui l'activité du neuf au sein de la région Côte d'Azur. Et puis pour représenter les notaires de France, maître Laurent Libouban, notaire, président de la Chambre des notaires des Alpes-Maritimes, qui nous proposera en fait un tour d'horizon du marché immobilier niçois dans l'ancien. Voilà Sylvain pour ce beau programme.
Monsieur le maire, je vous propose de démarrer cette émission avec quelques images que nous avons tournées dans votre ville. Un reportage qui a été tourné par Alexandre Burkhardt et Grégoire Daricot, notre producteur. Je vous propose de le regarder sans plus attendre.
Et bonjour à tous, bienvenue à Nice pour ce nouvel épisode des Clés de la Ville. Ça y est, on a retrouvé le soleil. Bienvenue dans cette ville mondialement connue, une ville attractive d'un point de vue économique évidemment, mais d'un point de vue touristique aussi, une ville avec un patrimoine important. Bienvenue à Nice pour ce nouvel épisode, les Clés de la Ville saison 6, épisode 8, c'est parti.
Nice, le soleil d'abord, cette lumière du sud qui a rendu fou les peintres et qui fait flamboyer la baie des Anges à toute heure du jour. Quatrième ville de France, première destination touristique du pays après Paris, une métropole méditerranéenne qui rayonne bien au-delà de ses frontières.
Ici dans le Vieux-Nice, l'histoire et la culture méditerranéenne restent omniprésentes. Entre marchés, façades colorées ou places animées, ce quartier conserve une identité forte. Depuis ici la colline du château, Nice dévoile tous ses atouts entre mer, centre historique et puis les nouveaux quartiers. Une ville qui conjugue à merveille patrimoine, attractivité économique et puis développement urbain. Entre grandes enseignes, flux piétons et puis tramway, l'avenue Jean Médecin et la place Masséna concentrent l'activité commerciale et urbaine du centre-ville. Vous l'avez reconnu, nous voici sur la promenade des Anglais, un lieu typique de Nice, un lieu mondialement connu où, à côté du front de mer, vous avez le tourisme, l'immobilier et puis l'art de vivre à la niçoise.
Mais Nice, c'est aussi bien plus qu'une carte postale. Nice, c'est une superposition de couches, l'italienne d'abord, elle n'est française que depuis 1860, et cette identité singulière se lit encore dans ses ruelles, ses couleurs, sa langue. Puis la belle époque des hivernants fortunés, des palaces et de cette promenade que les Anglais ont tracée et qui porte encore leur nom. Capitale de la Côte d'Azur, ville universitaire, carrefour économique et culturel entre France et Méditerranée. Une ville qui n'a jamais tout à fait choisi entre son passé et son avenir.
Ce qui est frappant à Nice, d'abord, c'est que le marché niçois se comporte pas du tout comme le marché national. Quand on compare Nice avec les grandes villes en France, par exemple Lyon, Bordeaux, Paris, les prix se corrigent depuis plusieurs années dans ces villes-là, alors que Nice va au sens totalement inverse, puisque les prix au mètre carré continuent à évoluer. Et l'autre particularité de Nice, c'est qu'aujourd'hui, elle est enclavée entre d'un côté la mer, de l'autre côté la montagne et autour des villes qui se développent aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour construire, c'est compliqué. Construire des logements neufs, c'est compliqué, donc ça rend le foncier très rare et forcément ça met le marché sous tension et ça fait évoluer les prix.
Derrière le front de mer et ses hôtels de luxe, Nice porte aussi ses contradictions, un taux de pauvreté au-dessus de la moyenne nationale, des prix immobiliers parmi les plus élevés de France en hausse de plus de 40% en 10 ans et des ménages modestes progressivement éloignés du cœur de ville.
Il y a trois marchés. Le premier marché, c'est un marché vraiment de résidents qui sont là pour acheter leur résidence principale. Ensuite, on va avoir des acheteurs qui viennent de l'étranger, qui vont soit investir pour l'attractivité du marché niçois, ou soit prendre leur résidence secondaire. Et ensuite, pour terminer, on a les investisseurs locatifs français.
Alors, comment loger les Niçois dans une ville que le monde entier veut habiter ? C'est l'équation centrale, celle qui redéfinit aujourd'hui les priorités du territoire.
L'attractivité de Nice, elle est indéniable, elle est vraiment formidable, mais elle a aussi ses revers. Nice aujourd'hui, c'est 5 millions de touristes tous les ans. Ces touristes, il faut les loger. Quand ils ont besoin d'être logés, bah, c'est un logement qu'un Niçois aurait pu acheter qui va passer en location courte durée. Et comme on ne peut pas construire plus à Nice, ça rend le marché très tendu. Beaucoup de logements qui sont normalement dédiés à la location ou à la vente pour les Niçois sont aujourd'hui des logements qui vont être mis en location courte durée. Le quartier du Port à Nice, qui aujourd'hui, grâce à une chose, il a été connecté par le tram et en moins d'une demi-heure, on peut aller du Port de Nice à l'aéroport. C'est un quartier où anciennement il y avait plein d'entrepôts. Tous ces entrepôts ont été transformés en appartements modernes. On a des restaurants qui sont installés et c'est un prix au mètre carré qui a énormément évolué.
Ici, le port de Nice qui marque la transition entre patrimoine, tourisme et immobilier haut de gamme. C'est un secteur particulièrement recherché pour son cadre de vie et son attractivité.
Tramway étendu, réaménagement des espaces publics, nouveaux quartiers mixtes comme Nice Méridia ou l'Écovallée du Var.
Nice Écovallée, symbole de ces nouveaux quartiers pensés autour des mobilités, du logement neuf et de l'activité économique. Une extension urbaine moderne qui transforme progressivement l'ouest de la ville.
Pendant longtemps, Nice avait un centre-ville qui était Jean Médecin, la place Masséna et la promenade des Anglais. Tout ça évolue à grande vitesse. Il y a plein de quartiers qui sont en développement et dans ces quartiers, on va retrouver des centres-villes avec des animations, des commerces et où on va retrouver tout doucement un peu comme d'autres villes en France, des arrondissements.
La métropole investit massivement dans ses mobilités, sa transition écologique et son attractivité économique.
Nice a le troisième aéroport français et est connecté en direct avec des vols directs dans des dizaines de pays dans le monde.
Elle accueille des entreprises, des startups, des talents attirés par la qualité de vie et par un territoire qui se réinvente.
Pour faire simple, à Nice, on peut, dans la même ville, avoir des prix au mètre carré qui sont multipliés par 4 selon le quartier dans lequel on va se situer.
Nice construit une autre image d'elle-même, celle d'une métropole du Sud ambitieuse, connectée et tournée vers l'avenir. Un territoire où le logement n'est pas une contrainte, mais un levier.
Je pense que Nice, dans 10 ans, peut vraiment ressembler au prix au mètre carré qu'on a aujourd'hui dans des villes comme Paris.
Vous l'avez vu avec nous, Nice conjugue à merveille développement économique, attractivité internationale et puis patrimoine méditerranéen. Une ville qui continue d'évoluer tout en restant l'une des destinations les plus recherchées de France. Merci d'avoir suivi avec nous ce reportage. Sylvain, Olivier, c'est à vous. Je vous souhaite une très belle émission. Les Clés de la Ville, saison 6, épisode 8. C'est parti.
Eh bien voilà les amis, nous sommes de retour sur le plateau des Clés de la Ville, spécial Nice, de très très belles images. Monsieur le maire, Éric Ciotti, comment avez-vous trouvé ces images ?
Elles sont à l'image de notre ville exceptionnelle. Une lumière, une géographie, un climat qui, si on y rajoute la touche culturelle, a forgé, a bâti le mythe de Nice et de la Côte d'Azur. Voilà, nous héritons d'une ville... avec un positionnement, avec une histoire, avec une identité, une culture qui ont ébloui le monde. Aujourd'hui, notre devoir, c'est de perpétuer cette histoire et fort de cet héritage, de donner, de construire l'avenir de Nice, un avenir qui naturellement est fidèle à cette histoire, à ce patrimoine, à cette identité, tout en tournant résolument notre ville vers l'avenir et en abordant les grands défis de l'intelligence artificielle, de l'université, de la recherche, de l'économie qui vont faire aussi de cette ville, au-delà de cette capitale touristique française, une ville tournée vers l'avenir et qui ne s'appuie pas uniquement que sur le tourisme. Bien sûr, le tourisme, grâce à cette richesse que vous avez parfaitement décrite, grâce à cette beauté, cette lumière, restera toujours notre premier réacteur économique, notre premier moteur. Mais l'enjeu, c'est aussi que nous arrivions à équilibrer notre activité économique. Et tout cela nécessite une plus grande attractivité du territoire en matière de développement, en matière de mobilité, en matière de logement et en matière de fiscalité aussi. Ce sont les ingrédients qui vont demain sculpter, forger cette attractivité du territoire.
Alors justement, je rebondis sur l'élément de la fiscalité, en cédant la place à mon fidèle complice Olivier Marin, puisque c'est un des aspects dans votre campagne que vous avez mis en avant. Olivier Marin.
Oui, alors, 357 000, ça c'est le nombre d'habitants à Nice. Nice, quand même, il faut le dire, 262 000 résidences principales, 54 000 résidences secondaires et 41 000 logements considérés comme vacants. À l'échelle de la métropole, on est autour de 570 000, c'est 51 communes. Alors que la pression fiscale continue de peser sur les propriétaires, évidemment on l'entend au Figaro, on l'entend partout à Radio Immo, la taxe foncière a atteint un niveau record en 2025, ça a rapporté plus de 55 milliards d'euros aux collectivités et à l'État. Dans beaucoup de villes, les hausses successives alimentent le mécontentement, on va dire des contribuables, et ravivent le débat sur la fiscalité locale. Et un peu à contre-courant, vous avez pris un engagement, vous avez fait le choix d'une baisse d'impôts avec 50 millions d'euros rendus aux propriétaires, aux résidents secondaires, une orientation qui est assumée comme un levier pour relancer l'offre locative et soutenir le logement. Est-ce que pour vous, la baisse de la fiscalité est devenue l'une des priorités pour répondre à la crise du logement?
Absolument. Au-delà de la problématique du logement, je crois que la baisse de la fiscalité, et là je prends peut-être un positionnement plus national, est un enjeu pour que notre pays continue à occuper sa place de grande nation. On ne peut plus être le pays au monde où l'on paye le plus d'impôts, où les prélèvements obligatoires sont les plus lourds. On est aujourd'hui à autour de 45% de prélèvements obligatoires. Dans les pays de l'OCDE, nous occupons la triste première place de ceux qui payent le plus d'impôts et de charges en matière de prélèvements obligatoires. Donc, mon engagement, ma pensée, mes convictions politiques militent depuis toujours pour une baisse des prélèvements obligatoires. On nous dit toujours il faut baisser les dépenses publiques. La baisse des dépenses publiques doit être une conséquence de l'objectif politique qui est la baisse des prélèvements obligatoires. Et là, on touche à la conception de l'engagement public. Pour moi, il peut y avoir plusieurs conceptions qui sont attachées à une fonction élective. C'est celle de construire, de bâtir, d'ouvrir des services publics. Il y a celle aussi que je rejoins plus, c'est de dire quand on est élu, on doit créer les conditions favorables à ce que l'acteur privé, l'entrepreneur, l'entreprise, qui, pour moi, sont les seuls qui créent des vraies richesses, puissent prospérer, puissent croître, puissent se développer. Donc c'est cet engagement qui part un peu de cette conviction politique que j'assume, qui m'a fait prendre non pas un engagement, puisque l'engagement, il était dans la campagne, mais ça y est, il est mis en œuvre.
Il est mis en œuvre.
Nous avons pris la décision, nous l'avons votée le 24 avril. J'avais toujours donné cette date dans ma campagne. Donc, moins d'un mois après mon élection, nous avons baissé la fiscalité. Nous l'avons baissé en volume de autour de entre 52 et 55 millions d'euros. Ça, c'est le produit fiscal que nous attendions et qui va être restitué aux propriétaires et aux locataires. Nous l'avons fait sur 4 leviers. Mon prédécesseur avait augmenté massivement la taxe foncière en 2024, avec une augmentation de l'ordre de 25%, presque 20% sur le taux, si on y ajoute l'augmentation des valeurs locatives, on était à 25%. C'était la dans les grandes villes de France, c'était l'augmentation la plus lourde et la plus élevée. Elle se rajoutait à d'autres augmentations qui étaient déjà intervenues, et notamment à la création de l'impôt métropolitain en 2018 qui pèse sur les propriétaires. Donc on était à un niveau de fiscalité très élevé et excessivement élevé. Donc j'ai décidé de revenir au taux de 2023. Donc globalement, un propriétaire qui acquitte la taxe foncière va retrouver les taux qui étaient en vigueur avant cette augmentation. Donc nous revenons au taux de 2023. Comment nous y avons procédé ? Nous avons baissé de 4,4 points le taux de la taxe foncière communale et nous avons baissé d'un point la taxe sur les ordures ménagères qui est assise sur la valeur locative qui est payée sur... C'est une des lignes multiples de la taxe foncière. Donc 5,4 points de baisse, ce qui correspond très exact, ce qui nous ramène au niveau de 2023. Effet mécanique, comme les taux, les impôts sont liés, baisse de la taxe foncière implique baisse de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Donc là, nous avons baissé de 3 points la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Donc au final, un propriétaire qui a une résidence secondaire bénéficiera de la double baisse. Hein. Vous avez évoqué ces 40 000 logements en résidence secondaire. C'est important aussi. Moi, je n'insulte pas les résidences secondaires à Nice. Ça fait partie aussi de l'attractivité et de la croissance de notre ville. Mais donc là, il y a...
Les logements vacants.
Nous avons fait un contre-choc fiscal important, inédit, je crois, inédit en France. Et nous l'avons naturellement financé, nous le financerons par une baisse massive des dépenses publiques. Et j'ai annoncé un plan de baisse des dépenses publiques de 60 millions d'euros. Le solde nous permettra de commencer à nous désendetter. Voilà, je pense que c'est le cadre d'une approche vertueuse de la gestion de nos finances publiques.
Vous l'aviez d'ailleurs annoncé et vous l'avez mis en œuvre, parce que l'an dernier, avant le début de la campagne, vous aviez annoncé à Océanis effectivement que il y avait tous les professionnels de l'immobilier, que vous n'augmenteriez pas la taxe foncière, qu'au contraire vous la baisseriez, et je confirme, vous êtes le seul métropole à l'avoir fait, et c'est assez unique. Vous avez conscience, Éric Ciotti, que c'est un signal extrêmement intéressant. Absolument. Important, symboliquement, que vous envoyez aux propriétaires qui ont été un peu la variable d'ajustement, si on peut dire comme ça, des politiques fiscales. Aujourd'hui, Nice compte parmi les villes, et c'est vrai que c'est un peu l'envers de la médaille, vous avez des meublés touristiques de type Airbnb sur des locations de courte durée, et on ne peut pas ne pas dire qu'effectivement ces produits-là, malheureusement, ne vont pas aux étudiants qui ont besoin de se loger ou de jeunes actifs qui ont besoin de se loger. Quand on voit la pression du marché locatif, on voit que certains quartiers, voire l'offre locative fondre comme neige au soleil, on a carrément une rétraction du marché de quasiment de moitié, hein, par rapport à l'offre locative. Est-ce que, de votre point de vue, vous envisagez des mesures peut-être de régulation ? Et quand on est maire d'une ville qui a autant d'attractivité, comment on fait ? Est-ce que c'est pas évident de résoudre cette quadrature du cercle entre, vous le disiez, ne pas insulter les résidences secondaires, au contraire, il faut loger aussi également les touristes, hein, 5 millions, c'est énorme. Ça va pas être simple quand on est maire d'essayer de trouver un équilibre. Vous parliez d'équilibre justement. Qu'est-ce que vous envisagez dans votre programme ?
La réponse, elle est dans ce mot d'équilibre. Je l'ai dit sur les impôts, mais on peut rajouter sur ce domaine du droit de propriété. Moi, je crois et je défends le droit de propriété. Donc, je suis toujours un peu réticent à ce que l'État, avec ses tentacules administratives, vienne dire à quelqu'un ce qu'il doit faire de son logement. Voilà. Par essence, ça me perturbe. Voilà. Moi, je crois à la liberté, je crois à la liberté économique, je crois au droit de propriété. C'est une valeur constitutionnelle, c'est l'héritage de la Révolution française. Et que un fonctionnaire vienne dire à un propriétaire qui a, grâce à son travail, acquis un bien et qu'il est légitime, qu'il exploite comme il le souhaite, de dire non, là tu ne peux pas. Voilà, donc mon postulat de base, il est là. Après, naturellement, comme dans tout, il faut lutter contre les dérives et il faut réguler les excès. Voilà. Mais la politique que nous conduisons et nous sommes en train de trouver un accord avec les organisations professionnelles, notamment des loueurs de meublés.
Les plateformes.
Voilà. Nous sommes en discussion pour que il y ait, nous corrigeons les excès. Il y a des zones de tension. Il y a des zones où aujourd'hui des quotas, des autorisations conformément à la loi Lemeur sont données par la mairie. Nous sommes en ce moment dans une forme de moratoire, hein, qui va durer vraisemblablement jusqu'à fin août. Hein, dans ces zones, il y a des quotas, et puis il y a des locations qui ont une durée. Aujourd'hui, la loi permet d'aller jusqu'à 9 ans, et on était à 3 ans aujourd'hui. Voilà. Donc on négocie pour sortir du moratoire les quotas qu'on mettra en œuvre. On négocie la durée qui sera autorisée pour louer et on négocie aussi la période sur l'année. La précédente municipalité est venue à 90 jours, la loi c'est 120. Voilà, donc on va agir sur ces trois paramètres. Mais moi je regarde beaucoup.
Vous êtes prêt à 90 jours ou vous allez
Je suis plutôt sur une légère augmentation.
D'accord.
Moi, je regarde ce qu'a fait Cannes.
Que vous pouvez passer de 90 à 120.
C'est une possibilité. On n'a pas encore conclu la négociation. On est dans ce cadre. Je regarde ce que fait David Lisnard à Cannes avec beaucoup d'intérêt. C'est une ville touristique, majeure aussi. Et de toute façon, aujourd'hui, nous sommes dans des contentieux. Hein, toutes les mesures qui ont été prises précédemment ont été contestées devant les juridictions et systématiquement les propriétaires ont gagné.
Oui,
voilà.
Tout à fait.
Donc moi je préfère qu'on ait un accord, qu'on soit dans des contentieux permanents. Voilà. Donc il y a cette idée de régulation, mais après ce que je souhaite, c'est une approche peut-être plus difficile, c'est qu'on favorise la location longue durée. Pourquoi aussi il y a de la location meublée touristique? Parce que on a écrasé de contraintes, de normes, de charges, d'impôts les propriétaires. Donc il faut qu'on c'est l'angle mort du macronisme. Le propriétaire a été l'ennemi, ou en tout cas l'oublié ou la vache à lait de ce pouvoir.
Alors justement par rapport, on a regardé sur Figaro Immobilier les biens à la vente actuellement à Nice 3860. Bien à la location dans le privé, 437. On s'est dit, bon, c'est Figaro Immobilier, on va regarder sur Se Loger, portail plus généraliste. Bien à la vente à Nice, 7853. Bien à la location dans le privé, 752. C'est-à-dire 10 fois moins. Donc c'est vrai qu'il y a eu un emballement sur Airbnb, pas d'obligation de rénovation énergétique, dans certaines villes aussi, pas d'obligation, pas d'encadrement de loyer. Il y a là aussi une dérive, puisque ce sont des logements au moins pour les étudiants, pour les habitants. Donc il y a un déséquilibre qui est énorme.
Alors, je suis totalement hostile à la régulation des loyers. Parce que
l'encadrement des loyers.
C'est le meilleur moyen pour tuer le marché locatif. Voilà.
Donc vous avez
l'excès de normes, l'excès de régulation tue aussi le marché. Voilà. Un propriétaire, il doit avoir une garantie de loyer, que les impayés de loyer ne lui bloquent pas pendant des années un logement. Un propriétaire, il doit pouvoir avoir une rentabilité conséquente de son logement. La fiscalité, les prélèvements rendent aujourd'hui sur la location longue durée ce taux de rentabilité extrêmement faible. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Je pense que on peut pas être que dans l'interdiction. On doit être dans l'incitation à louer.
Et notamment plutôt que contraindre.
Et notamment, on doit pouvoir inciter des propriétaires qui font peut-être de la location touristique à 9 mois par an à louer leur logement à des étudiants. C'est toute cette logique que l'on veut mettre en œuvre. Vous savez, j'ai reçu hier. C'est un autre sujet. On manque de logements à Nice. J'ai reçu hier une aimable missive du préfet des Alpes-Maritimes qui aimablement m'avait prévenu 3 jours avant lorsqu'on s'était vu pour nous dire qu'on allait subir une lourde amende pour carence dans la construction de logements sociaux. C'est lié à la loi SRU, donc on va payer, on n'a pas encore donné l'addition, mais elle va être très lourde. Mon prédécesseur s'était engagé à construire 6000 logements, 600 ont été construits. Donc non seulement on n'est pas à ce seuil que je conteste, parce que je trouve qu'il est absurde, notamment sur notre territoire, qui est très contraint. Mais ça, c'est la loi SRU. Je souhaite son abrogation au plan national, mais ça, c'est mon projet politique national. Mais elle existe, et donc on regarde à la fois si on atteint les 25%, et si on ne les atteint pas, il y a les communes qui s'en rapprochent. Bon, nous, non seulement on ne les atteint pas, mais on ne s'en est pas rapproché. Donc on a cette carence qui va nous coûter, mais pour sortir de cette carence, on peut notamment construire des logements étudiants, on peut construire des résidences seniors, on peut aussi permettre, avec des modalités où, par exemple, les propriétaires s'engagent à des rénovations thermiques de logements, à sortir et mettre à disposition leur logement pour la location, à sortir de ces quotas. Les aides que la ville peut donner en matière de rénovation thermique sont déduites de l'amende qu'on va subir. Donc moi, on a cette situation, malheureusement, j'en hérite. Hein, j'ai reçu beaucoup j'ai reçu une immense confiance des Niçois, puis j'ai reçu beaucoup de petits cadeaux en arrivant qu'on trouve dans les placards.
Ouais. Exemple.
Et celle-là en fait partie. L'amende SRU, mais bon, il y en a beaucoup d'autres. Mais vous voyez cette logique. À partir du moment où on va sans doute devoir payer autour de 10 millions d'euros de carence, moi je préfère que ces 10 millions d'euros on les mette dans des aides pour les propriétaires, pour rénover leur logement. Vous avez parlé, il y a 11% à peu près de logements vacants
oui.
Pour qu'on les remette sur le marché. Voilà, la logique, c'est pas simplement de taper sur un propriétaire qui, après tout, toute sa vie a travaillé, il a investi, il a un bien. C'est pas complètement illogique, il veut que ce bien soit rentable. C'est en Union soviétique qu'on veut qu'un bien soit pas rentable.
Ouais.
Voilà, mais on s'en est quand même approché quand on est dans un pays qui a 47% de prélèvements obligatoires et 58% de dépenses publiques. Valéry Giscard d'Estaing disait qu'au-delà de 40%, on était dans un régime collectiviste. Bon, on est à 58% de dépenses publiques. À un moment, il faudra peut-être s'expliquer pourquoi on en est là. Donc la norme et l'impôt, pour moi, c'est pas la solution. L'incitation et la baisse d'impôts participent. Je dis pas que c'est les seuls vecteurs. Je dis pas qu'il faut conjuguer les excès. Moi, je traquerai les investisseurs qui vont acheter des immeubles entiers pour faire du Airbnb. Mais le propriétaire qui, toute sa vie, a gagné sa vie, celui qui a une résidence secondaire à Nice, qui habite à Paris et qui vient 3 mois par an ou 3 semaines à Nice, le reste du temps, le logement, il est vide. Il vaut mieux qu'il soit occupé par quelqu'un.
C'est sûr.
Parce qu'on accueille 5 millions de touristes, et ces 5 millions de touristes, c'est aussi 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est pour ça que, tout à l'heure, ma politique, elle se résume à un mot, équilibre.
Et à propos de logement social, un complément, vous proposez de céder donc une partie du parc détenu par Côte d'Azur Habitat pour financer donc la rénovation de logements destinés aux actifs, policiers, les soignants, les fonctionnaires. Une stratégie que vous présentez comme un pacte de confiance pour construire, vous dites, plus et mieux, plus largement donc sur votre politique en matière de logement social.
Alors, d'abord, logement social, j'évoquais cette carence. Hein, on est à des taux très très faibles, 12-13% pour la ville, pour la métropole. Donc il faudra qu'on construise plus et mieux, hein, je vous dis, avec des axes notamment étudiants, seniors, qui sont dans les quotas SRU. Mais aujourd'hui, on a un office HLM qui est rattaché à la métropole, qui est un établissement public rattaché à la métropole Nice-Côte d'Azur, qui a un parc locatif important, autour de 22 000 logements. À peu près 5 000 sont situés hors métropole.
Ouais, voilà. 5 000.
Moi, ce que je veux, c'est recentrer l'activité de ce bailleur social sur la métropole. Il ne construit plus. Il a beaucoup construit dans
Côte
les années...
Côte d'Azur Habitat, d'accord.
Il a beaucoup construit dans les années 90-2000. Aujourd'hui, Côte d'Azur Habitat ne construit plus de logements. Voilà. Celui qui construit le plus de logements, c'est Habitat 06, qui est un petit bailleur qui dépend du département, qui a plus construit que Côte d'Azur Habitat. Il a un parc 10 fois plus petit, mais il a construit plus que Côte d'Azur Habitat. Donc d'ailleurs, mon idée, c'est qu'on rapproche, on fasse travailler ensemble les deux organismes. Donc il faut que Côte d'Azur Habitat construise plus. Et pour cela, je souhaite vendre à d'autres bailleurs sociaux tous les logements qui sont hors métropole. Par exemple, on a beaucoup de logements, plusieurs centaines à Cannes, on en a à Grasse, on en a à Menton. J'en ai parlé avec le maire de Menton, j'en ai parlé avec le maire de Grasse. Eux, ils préfèrent avoir dans leur parc les logements qui sont dans leur commune. C'est beaucoup plus rationnel. Potentiellement, ces logements représenteraient une recette, si on arrive à les vendre tous, de 400 millions d'euros. Ces 400 millions d'euros, ils doivent être le levier de deux politiques. Une de rénovation du parc de Côte d'Azur Habitat, parce qu'il y a des logements qui sont... qui laissent vivre des Niçoises et des Niçois dans des conditions indignes, insalubres. Vous parliez du seuil de pauvreté, mais j'ai visité pendant la campagne électorale, et je le fais aujourd'hui encore, des logements totalement insalubres, totalement indignes. Dans le parc de Côte d'Azur Habitat, il y a des parties communes dégradées, il y a des ascenseurs qui ne marchent pas pendant des mois, donc... Il y a une politique de rénovation à conduire sur le parc existant, et puis il faut relancer la construction. Il faut relancer la construction en essayant d'avoir une vraie mixité sociale. Moi je suis contre les monoquartiers sociaux. Voilà. Il faut pas. On voit dans notre ville, et on a subi les conséquences des erreurs d'urbanisme des années 70. Les Moulins, l'Ariane, Bon Voyage. Pas d'activité économique, très peu, que du logement social, pas de tertiaire. On a créé des ghettos sociaux. On a créé des ghettos sociaux et qui sont devenus aussi des lieux où les lois de la République, on le voit avec, malheureusement ce qui se passe au Moulin, sont devenus difficiles. Donc quand je regarde l'évolution de la plaine du Var, et que l'État me dit il faut construire dans la plaine du Var 5000 logements sociaux entre la digue des Français et le stade Alliance, c'est deux fois le quartier des Moulins.
Ouais.
Je me dis, attention, nous sommes dans un quartier qui doit être la ville de demain, qui doit accueillir des actifs, qui doit accueillir des entreprises, des laboratoires de recherche. On ne peut pas il faut du logement social dans notre ville. Je suis contre, mettre 5000 logements au même endroit, ça veut dire qu'on va reproduire, multiplier les erreurs du passé, surtout qu'on a des zones qui sont à immédiate proximité, extrêmement tendues, extrêmement sensibles au plan social, au plan sécuritaire. Et ce sont des quartiers, on l'a vu encore avec ce qui se passe au Moulin, qui sont dans très très grande tension. Donc attention de ne pas reproduire avec... c'est un peu le débat à ce que j'ai avec l'EPA qui est dans une logique purement budgétaire en disant on construit, ça nous fait notre équilibre. Mon souci, c'est que dans 20 ans, dans 10 ans, on n'est pas dans toute la plaine du Var un gigantesque quartier des Moulins bis. Avec les problèmes qu'il y a. Je stigmatise pas ce quartier, je vais le défendre, on est mobilisé, on vient d'ouvrir des postes de police, il y faut des bureaux, il y faut des services publics, il y faut des entreprises, mais attention à la contamination négative.
Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, et d'ailleurs, je partage complètement votre point de vue, le mocronisme ne nous aura à rien épargné de ce point de vue-là.
On peut le dire.
On peut le dire. Et alors, je trouve très rassurant ce que vous dites, à l'endroit des propriétaires, dont 62% logent des personnes qui seraient éligibles au logement social.
Bien sûr.
Donc, ils ont un rôle d'amortisseur social. Et c'est très intéressant ce que vous dites, puisque le symbole, vous le savez, est important en politique. Et donc, ce signal que vous envoyez est important. Mais on voit quand même que devenir propriétaire à Nice, c'est un parcours du combattant. Taux d'effort extrêmement élevé, un apport qui est conséquent. est-ce qu'on peut éviter la gentrification des quartiers sur lesquels, effectivement, alors je caricature un peu, où il y a des riches, les moins riches et les pauvres. Surtout qu'il y a un phénomène qui est très délétère, je sais que vous en avez conscience, c'est l'éloignement des bassins d'emploi.
Bien sûr.
Par rapport au logement. Encore une fois, Éric Ciotti, comment on peut effectivement essayer d'adopter peut-être un reset complet des politiques locales? Vous avez dit, vous êtes contre l'encadrement des loyers. Vous faites partie des rares maires de grandes agglomérations à dire « je suis contre l'encadrement des loyers ». Vous avez une politique offensive qui tient compte de toutes les classes sociales, etc., par le principe de la mixité. Comment, aujourd'hui, à votre niveau, vous pensez avoir des leviers suffisants pour pouvoir accompagner ce mouvement? Peut-être même, d'ailleurs, faire de la métropole une espèce de démonstrateur urbain, peut-être.
D'abord, je pense qu'au niveau du national, alors chaque fois, j'essaie d'être cohérent avec ce que je dis au plan national. Je pense que la politique du logement social en France est absurde. On y dépense des dizaines de milliards d'euros et avec un résultat qui est très mauvais partout. Peut-être qu'il faudrait inverser la logique, de dire faisons des aides à la personne plutôt que construisons massivement avec le même modèle. Voilà, partout. Avec ce que ça a créé comme erreur d'urbanisme, comme tragédie sociale, comme problématique sécuritaire. Moi, je pense qu'en effet, moi je fais confiance à l'investisseur privé, je fais confiance au propriétaire. Si on aide le propriétaire, si on l'accompagne, si on le soutient, on aura une offre qui sera multipliée. Après, comment sur Nice, vous avez évoqué un problème important, c'est la différence entre les bassins d'emploi et les lieux de logement. Dans notre département, on a deux pôles économiques majeurs, et j'aimerais qu'il y en ait un troisième à Nice, ce qui n'est pas encore le cas. C'est Monaco, alors je n'ai pas la prétention d'inclure, le prince m'en voudrait, je le vois demain matin en plus, d'inclure Monaco dans notre département. Enfin, géographiquement, c'est le cas. Juridiquement, non. On a 40 000 emplois azuréens à Monaco. Qui viennent des Alpes-Maritimes et à peu près 30 000 de Nice. On a à peu près 40 000 emplois à Sofia, qui est une grande réussite économique depuis 50 ans et qui se régénère d'ailleurs. Une entreprise se ferme, une autre s'ouvre, mais il n'y a pas de logement à Sofia et il n'y a pas de logement à Monaco. Voilà. Donc on a chaque matin, est-ouest, des deux côtés, on a ces logiques de déplacement domicile-travail. C'est pour ça que j'ai lancé dans cette campagne cette idée de dire rapprochons le domicile du travail, avec peut-être cette idée de zone franche ouverte à quelques entreprises monégasques pour dire au lieu de bouger le piano, on va bouger le tabouret, quoi. Voilà, parce que Monaco a de l'argent mais pas de foncier. Nous, on a encore un peu de foncier, mais on n'a pas beaucoup d'argent. Il y a des espaces où on pourrait faire en sorte que quelques milliers de salariés qui vont à Monaco travaillent sur le territoire azuréen, pas forcément dans la métropole d'ailleurs. On peut y réfléchir globalement. Donc, il faut qu'on recrée aujourd'hui, et c'est un enjeu du développement de la plaine du Var, il faut qu'on ait cette mixité entre l'économique, le lieu de travail et le logement. Mais dire on fait de la mixité avec dans des endroits 40% de social, ça c'est une erreur, ça c'est une vision d'un technocrate qui regarde bêtement comment appliquer une loi stupide. Voilà. Donc c'est pas une vision d'un aménageur, c'est pas quelqu'un qui se dit qu'est-ce que sera ma ville dans 20 ans. Voilà, il répond à des tableaux Excel, et puis si ça va pas, il met une petite amende, mais voilà. Ça, c'est ce qui fait le fléau.
C'est pas la conséquence, justement, de cet État jacobin qui centralise tout et qui uniformise tous les territoires.
Bien sûr, parce que je vous dis, moi je fais confiance à... Je pense qu'il faut qu'on fasse confiance à l'investisseur privé, il faut qu'on fasse confiance aux propriétaires, il faut qu'on fasse confiance à ceux qui investissent. Et que la puissance publique, elle soit pas là pour imposer, réguler, réglementer, elle soit là pour accompagner. Notre rôle, c'est que notre aménagement, il soit cohérent, que là où on fait, là où on installe les entreprises, on est à côté du logement, qu'on ait des réseaux de transport qui soient performants entre l'entreprise et le domicile. Voilà, c'est tout cela. Alors, je ne dis pas qu'il y a des choses très positives qui ont été faites. Le réseau tramway qui irrigue maintenant la plaine du Var, qui est naturellement un axe structurant, c'est extrêmement positif. Il faut qu'on travaille aussi sur les quartiers est de la ville de Nice. Moi, j'ai un espoir, c'est qu'on dégèle aussi un peu les rigidités du mammouth SNCF. Hein, quand vous montez sur la colline du Montalban ou du Montboron, vous regardez l'est de la ville, un tiers de la ville appartient à la SNCF. Ouais. Voilà. Ces espaces, ils sont aujourd'hui quasiment inutilisés. Voilà. En tout cas, on doit et on peut, j'espère, engager une négociation pour dire c'est un lieu de développement. Voilà, on a cette ville nouvelle qui se construit et qui, je le dis, et ça va peut-être choquer quelques-uns des aménageurs ici, s'est construit de façon un peu anarchique. En tout cas, personnellement, mais je suis pas objectif, je considère que c'est pas réussi. Hein. Et que l'enjeu, ça va être de redonner de la cohérence, de la lisibilité, de la qualité urbanistique et architecturale à la plaine du Var, parce que pour l'instant, on a construit des logements, mais on n'a pas construit les équipements publics. Enfin, je sais pas, quand je suivais des cours d'aménagement à Sciences Po il y a 40 ans, on me disait que quand on fait une ZAC, d'abord on construit les réseaux, les écoles, voilà. Dans la plaine du Var, il n'y a pas d'école. Donc, on me dit qu'il faut rénover l'école de la digue des Français pour 10 millions d'euros. Mais je ne suis pas sûr que les gens qui achètent à Gioia à 10 000 euros le mètre carré aient envie d'aller à... Voilà. Il n'y a pas d'école qui a été faite. Pas de collège. Très peu de stationnement. Donc, ça veut dire que, quelque part, on a avancé un peu dans une logique, on fait du logement, on vend du logement. Quand on ne le vend pas, on le vend au bailleur social, c'est beaucoup plus facile et c'est plus simple. Et on a l'équilibre de l'EPA. Mais ça, ce n'est pas une stratégie d'aménagement du territoire telle que je la conçois.
C'est très clair. On va passer maintenant, si vous voulez bien, vous restez avec nous, monsieur le maire, à une séquence. On va entendre justement les professionnels qui fabriquent le territoire, qui aident le territoire. On va passer à une séquence qui s'appelle Parlons bien. Justement, on va faire parler maître Libouban, qui est le représentant de la Chambre royautaire des Alpes-Maritimes dans quelques instants. C'est notre séquence Parlons bien ici à Nice en présence du maire Éric Ciotti.
Les clés de la ville. Parlons bien avec le Conseil supérieur du notariat.
Rebonjour les amis, voilà, si vous prenez l'émission en cours de route, on est ici à Nice, voilà, the place to be, venez à Nice, en plus on a une collectivité locale qui nous accueille bras ouverts. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous et d'être reçu également par le maire Éric Ciotti, président également de la métropole. Applaudissements pour monsieur le maire, s'il vous plaît. Éric Ciotti, un immense merci de nous faire l'honneur d'être sur le plateau. On va parler justement de l'immobilier ancien. Ceux qui font l'immobilier ancien, qui ont toutes les mesures, si je peux me permettre, ce sont les notaires de France. Voilà, une très vieille tradition en France. Vous êtes les premiers intermédiaires du logement dans notre pays. Laurent Libouban, vous êtes président de la Chambre des notaires des Alpes-Maritimes. On va vous poser des questions très directes, voilà, et surtout peut-être avoir quelques bons plans. Ça peut être sympa pour nos auditeurs. Et comme il est de tradition, c'est notre ami Olivier Marin qui va vous poser la première question. Et on demandera à Éric Ciotti, le maire, de réagir sur vos propos.
Oui, alors on va faire justement avec vous un coup de projecteur sur le marché immobilier à Nice et par extension sa métropole. Maître Laurent Libouban, donc vous êtes notaire, vous êtes porte-parole de la Chambre des notaires des Alpes-Maritimes. On va avoir quelques prix, quelques chiffres clés. Tout d'abord les ventes, 25 000 ventes en 2025, c'est plus 5% par rapport à l'année précédente. Prix des appartements, 4 810 euros, ça c'est le prix médian. Alors bien sûr, il y a de fortes disparités selon les quartiers. On est à plus 19% de hausse à Nice sur 5 ans. C'est l'un des rares marchés où les prix ne baissent pas. Pourquoi ?
Alors vous avez raison déjà de dire que les notaires ont une statistique exhaustive, et c'est la raison de ma présence ici, puisque toute opération immobilière passe par devant notaire, et donc on a à la fois un très beau rétroviseur avec l'ensemble des opérations qui sont intervenues, mais aussi on a, j'ai envie de dire, une vision même d'avenir avec une base de données qui concerne les avant-contrats. Donc avec une vision à 2-3 mois...
Un compromis. C'est le fameux compromis de
voilà, exactement, qui permet d'avoir une petite vision, allez, on va dire, court-termiste dans le futur.
Qui donne une mesure du marché.
Exactement. Donc, en termes de statistiques sur Nice, d'abord sur les volumes, à la différence des prix, on peut dire qu'on a suivi l'évolution nationale et départementale. Il n'y a pas de spécificité niçoise sur les volumes. Les volumes ont fortement augmenté sur ces 15 dernières années. Il y a eu l'époque Covid qui a bien évidemment créé aussi une augmentation sensible. Et puis le post-Covid, un effondrement, une chute assez significative en 2023-2024, un atterrissage en 2024-2025 et une remontée à partir de 2025 comme sur l'ensemble du territoire national.
Ah, vous avez quand même connu la crise.
Nous avons connu la crise en volume.
Oui, en volume, pas en prix. Parce qu'on voit les statistiques.
Exactement. C'est pour ça que je prends ce relief de dire, sur le volume, on a subi la même chose que sur le reste du territoire. Mais les prix en revanche, vous avez raison.
40% en 10 ans.
Dans certains quartiers, c'est jusqu'à 50%, figurez-vous. Voilà, on a effectivement sur les prix une différence par rapport aux grandes métropoles de France, puisque les prix, vous l'avez dit, n'ont jamais baissé, même dans la période où les volumes se sont abaissés. Et ça, ça s'explique vraisemblablement par ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire simplement la rencontre entre l'offre et la demande, la tension entre le monde entier qui nous regarde et qui veut venir chez nous. Et l'ensemble du territoire de France qui est attiré par tous nos avantages, par, vous l'avez dit tout à l'heure, la lumière, par le climat, et puis par les contraintes géographiques qui font qu'on ne peut plus construire, en tout cas qu'on ne peut pas construire suffisamment par rapport à la demande. Et ça génère des prix hauts.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Nice, si l'on devait prendre une photo sur les différents quartiers en termes de prix, voilà, quelques exemples.
Alors, vous avez donné le prix de 4 800 € du mètre. Ça, c'est un prix médian, vous l'avez dit. C'est le prix qu'on constate en dernier trimestre 2025. Déjà, le premier trimestre 2026, on a quelques premiers chiffres qui sortent et qui laisseraient entendre encore une petite augmentation à ce titre. Bon, c'est encore un peu tôt pour le dire.
Pardonnez-moi, prix médian, métropole.
Non, prix médian, Nice.
Nice, intramuros.
Donc 4 800 €, c'est aussi le prix médian du département. Donc ça vous donne aussi une petite idée. De la même manière, en termes de volume, je reviens un peu sur ce point, il faut savoir qu'il y a à peu près une vente sur trois qui se situe à Nice intramuros, sur l'ensemble du département. Donc quand on donne des chiffres en termes de volume, eh bien Nice est une entité qui permet finalement d'avoir une idée assez globale sur ce qui se passe dans l'ensemble du département.
Alors des exemples de quartiers, justement.
Alors des exemples de quartiers, donc par exemple, parlons de la colline de Cimiez. Cimiez, qui est un secteur où il y a relativement peu de concentration urbaine, là vous êtes sur des prix qui sont en moyenne autour de 5 500 à 5 600 € du mètre. Donc vous voyez, il y a déjà une différence.
Logement collectif,
oui.
D'accord.
Oui, alors les maisons, on va en parler, si vous voulez, après. Mais là, je suis sur les appartements.
Okay. Voilà.
Donc, les appartements à Cimiez, voilà, on est autour de 5 500 €. Après, un autre secteur qui peut être intéressant, c'est ce qu'on va appeler le bord de mer. Le bord de mer, c'est la promenade, c'est le port. Là, on va se retrouver à des moyennes d'à peu près 6 700, 6 800 € du mètre. Et puis après, vous avez les collines où vous pouvez très facilement, Montalban, Montboron, tutoyer les 10 000 € du mètre. Même au-delà.
On est sur des prix parisiens. Quoi.
On est sur des moyennes parisiennes, alors que chez nous, c'est des points hauts. Voilà. Donc, disons que notre haut de marché, c'est la moyenne parisienne. On n'en est pas encore au prix parisien.
Ces chiffres vous surprennent, monsieur le maire ?
Non, parce qu'ils reflètent cette différence entre cette offre rare et cette demande qui est liée à l'attractivité de notre ville. Ils sont aussi d'un côté, ils sont le signe de l'excellence et de l'attractivité de Nice, et de l'autre, pour ceux qui souhaitent acquérir un logement, c'est naturellement une difficulté, parce que le pouvoir d'achat nécessaire pour acheter un mètre carré à Nice est plus important pour un salarié qu'il ne l'est dans beaucoup de villes de France. Donc c'est une difficulté que l'on doit prendre en compte. Et je le dis, président de la Chambre des notaires, le département, je préside encore la commission des finances du département, le département des Alpes-Maritimes a été, je crois, il y en a que 5 en France sur les 101 départements qui ne l'ont pas fait, a refusé d'augmenter les droits de mutation à titre onéreux, ce qu'on appelle vulgairement
frais notaire, entre guillemets.
Les frais notaires, voilà. Nous sommes toujours à 4,5, là où la plupart des départements, enfin la quasi-intégralité des départements sont à 5. C'était aussi un moyen pour dire on aide les acquéreurs et les primo-accédants notamment, puisque c'est notamment sur l'apport personnel qui va être le levier pour les prêts. Et dans ces frais, voilà, bon, c'est pas énorme, mais ça peut être 1 000, 2 000 euros qui, dans un dossier, peuvent être importants.
Donc,
on a fait ce choix au département, je l'ai souhaité, avec le président Ginesi.
Ça va être pérenne, justement, cette...
Absolument.
La clientèle étrangère, on va en parler, la part qu'elle représente déjà à Nice, et puis, est-ce qu'elle fait monter les prix ?
Alors, la part des étrangers est d'à peu près 10%. Ça peut paraître contre-intuitif, parce qu'on considère souvent qu'il y a énormément de transactions avec les étrangers sur la ville de Nice. Alors, 10%, on peut estimer que c'est beaucoup, que c'est pas beaucoup, mais à titre personnel, moi, je suis plutôt surpris par ces chiffres. Et un autre chiffre que je souhaite vous donner, pour vous dire que finalement, la ville de Nice est attrayante pour le territoire national, mais aussi pour le territoire niçois, puisque plus de 50% des acquéreurs de biens immobiliers niçois sont niçois. Donc, soit ce sont des locataires niçois qui achètent, soit ce sont des propriétaires niçois qui vendent et qui rachètent. Donc, 50% des acquisitions immobilières sont faites par des niçois. Et environ 13 à 14% par des départementaux.
Propriétaires occupants.
Résidents niçois.
Oui, résidents niçois.
Voilà. Donc, ça veut dire que vous avez 2 achats sur 3 qui sont faits par des acquéreurs du département, qu'ils soient niçois ou du département. 2 sur 3, c'est quand même assez intéressant comme chiffre.
Par rapport à l'axe politique que vous voulez, il y a effectivement une volonté des niçois d'être logés, de vouloir être logés et d'acquérir leur bien. Parce que l'accession à la propriété, vous le savez, est un moyen également, d'un point de vue patrimonial, de se prémunir de l'avenir et bien évidemment d'un certain nombre. Est-ce que pour vous, ces chiffres-là, par rapport aux autres chambres des notaires en France, vous paraissent singuliers ? Est-ce qu'il y a une particularité ? Est-ce que quelle analyse vous faites justement de ce facteur-là ?
Non, comme je vous ai dit, on peut peut-être penser à tort, comme on peut l'entendre de manière parfois dans les médias, que les Parisiens achèteraient la majorité des biens, que les étrangers, les Italiens, les Espagnols, les Américains. On entend beaucoup de choses. Et donc, lorsqu'on regarde les chiffres de manière brute, de manière froide, on se rend compte que oui, il y a bien évidemment une diversité et c'est heureux. Mais il n'y a absolument pas de péril lorsque 2/3 des acquisitions sont faites par des acquéreurs locaux. Je pense qu'on peut s'en satisfaire.
Un mot quand même des maisons. Donc, oui, peu de maisons à Nice,
peu de
mais
maisons.
Tout de même 650 000 euros. C'est un prix médian. À l'échelle de la métropole, on est à 517 000 euros. Ce marché de la maison, comment évolue-t-il ?
Oui, alors effectivement, à Nice, très peu de maisons, ce qui fait que le prix médian que vous indiquiez, si je me déplace un peu dans Nice et que je fais un zoom sur, par exemple, le Montalban ou le Montboron ou éventuellement Rimier, au-dessus de Cimier, on a des prix qui n'ont rien à voir, puisque le prix moyen, on est plutôt à 1 900 000 euros. Pour vous donner une idée de l'éloignement qu'il y a entre ces maisons-là et le prix médian qui est annoncé à 650 000 euros. Tout simplement parce que vous avez plusieurs marchés. Une petite maison dans le centre de Nice, s'il en reste encore, ne sera absolument pas vendue au même prix qu'une belle maison avec vue sur les hauteurs de Rimier.
Un mot sur les secteurs porteurs à Nice, si l'on souhaite faire un investissement locatif. Quels sont vos conseils ?
Secteur en développement, d'ailleurs, comme l'a indiqué...
Alors, investissement locatif, et vous l'avez dit tout à l'heure, faut-il encore qu'il soit rentable ? Il générera une rentabilité, à n'en pas douter. Maintenant, si derrière, la fiscalité appréhende la totalité de la rentabilité, ça n'a pas de sens. J'attire l'attention, bien évidemment, sur le fait des différences de régimes fiscaux entre la location long terme, la location vide, et la location meublée. meublé pour une résidence principale ou meublé pour du saisonnier. C'est deux choses différentes. Vous avez parlé tout à l'heure du saisonnier. Il y a effectivement de plus en plus, et on doit s'en satisfaire et s'en féliciter, de locations meublées ouvertes aux étudiants, ouvertes aux personnes qui veulent la flexibilité. Le vrai problème qu'on a à Nice, me semble-t-il, c'est la location vide, c'est la location long terme. Et pourquoi ? Parce que la fiscalité n'est absolument pas acceptable pour les bailleurs. Et donc, naturellement, ils sont orientés par une fiscalité plus favorable vers le meublé.
On peut même carrément parler d'injustice fiscale. Comment expliquer que ce soit plus simple de louer en courte durée avec moins de contraintes, notamment sur le plan thermique, du DPE notamment,
qui pas d'obligation de rénovation énergétique.
Et que ça désencombre. Mais il faut se mettre à la place du propriétaire.
Alors, tout le monde. Il peut faire la location meublée à une résidence principale.
La loi d'Annaïg Le Meur, d'ailleurs, M. Ciotti, vous me corrigez, a tenté de réparer, finalement, quelque part, cet aspect des choses.
On a effectivement eu le dispositif Jean Brun qui a tenté d'apporter une réponse.
Il vient d'être
lancé.
Voilà. Et on va voir un peu ce que ça va donner. C'est un peu tôt pour le dire.
Mais alors, étudier. Les secteurs porteurs, alors.
Les secteurs à proprement parler.
Pour investir, pour faire un investissement.
Voilà, ça dépend un petit peu ce que vous recherchez. Si vous recherchez de la rentabilité brute, vous allez aller sur des secteurs où les prix ne sont pas trop élevés encore. Donc vous allez aller du côté de Saint-Roch, du côté de Riquier. Si vous voulez de la rentabilité plus-value, vous allez aller sur des secteurs qui sont plus chers en prix, mais dont on constate qu'ils augmentent considérablement en valeur au cours du temps. Comme par exemple la ligne de mer. Ce sont des secteurs qui ont pris 50% de prix en 10 ans, ce qui génère 5% de rendement annuel finalement. Donc selon l'approche que vous avez, si vous recherchez une rentabilité régulière ou une rentabilité par plus-value, vous ne ferez pas les mêmes choix.
Une dernière question. Traditionnel qu'on pose dans chaque ville-étape au notaire, forme de conseil pratique, quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier, donc ici à Nice, en quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui ?
Alors, si on veut acheter, de manière générale, c'est pas spécifique à Nice, un conseil, c'est bien évidemment de regarder le DPE, ce fameux DPE qui a une utilité pour le financement, qui a une utilité pour les éventuelles subventions, et puis qui peut générer des contraintes en termes locatifs, puisque si le DPE est mauvais, il peut y avoir une interdiction de louer. Donc ça, c'est le point principal sur lequel il faut faire attention. Le secteur, bien évidemment, l'emplacement, comme on dit toujours, l'emplacement, vérifier l'accessibilité aux transports publics, vérifier les écoles, le quartier tout simplement, ces points sont fondamentaux. Et côté vendeur, eh bien rien de particulier. Aujourd'hui, si votre bien est au marché, au prix du marché, il trouvera acquéreur. Donc il n'y a pas de tension négative sur le marché. Il y a simplement à fixer le bon prix au prix marché et ça sera vendu.
Maître, on peut dire que placer et investir à Nice, c'est un placement sûr.
Tout à fait, je crois qu'on peut le dire.
Qu'à la limite, on ne fasse même pas énormément de plus-value, on sait que finalement, c'est un peu l'argent qu'on
met. Ça ne perdra pas de valeur.
C'est l'argent qu'on met au coffre, bien évidemment, en sachant qu'on a besoin des investisseurs. Vous l'avez dit, monsieur le maire, dans les quartiers émergents également. Et il y aura fort à gagner que dans les 2-3 années qui viennent, il y aura des changements fiscaux qui pourraient s'annoncer être tout à fait pérennes. En tout cas, c'est ce que je souhaite, bien évidemment. Applaudissements pour Maître Olivier Morin. Voilà, je vous propose, nous sommes ici bien sûr à Nice, une dernière séquence. On va parler avec vous, monsieur le maire, de logement neuf, de comment le logement neuf peut être aussi une alternative, mais aussi dans le mode d'habiter. Avec un grand professionnel, je vous propose qu'on le rencontre dans quelques instants. Il est directeur général de la région Sud et membre du comité exécutif de Nexity, première marque pour le logement abordable en France, et Lionel Siropian, qu'on va recevoir dans quelques instants. Merci, maître.
Les clés de la ville, la vie ensemble, avec Nexity.
Bien les amis, bonjour, voilà, vous êtes à Nice pour notre émission des clés de la ville, on a fait cette ville-étape, on en est quasiment à 70 villes il me semble.
75
villes, bref, nous sommes les saltimbanques de la République, c'est-à-dire qu'on va de ville en ville pour rencontrer les maires que nous aimons particulièrement. D'ailleurs, je voudrais qu'on fasse une petite dédicace aux maires de petites villes, de petites communes, qui sont très efficaces. Elle a gagné avec victoire son troisième mandat, me semble-t-il. Elle est avec nous dans le public, c'est Colette Fabron, qui est la maire de... Elle est plus là. Elle est partie, voilà. Je voulais, écoutez, elle est partie, voilà. Je voulais lui, je voulais lui faire ses dédicaces. En tout cas, elle sera enregistrée. Colette Fabron, qui est maire de Saint-Étienne-du-Tinais et de Ron, que vous connaissez bien d'ailleurs.
Vice-présidente de la métropole.
Et vice-présidente de la métropole. D'ailleurs, en plus, c'est extraordinaire parce que c'est une petite commune qui peut monter jusqu'à 20 000 habitants avec une magnifique station. Et on, voilà, madame la maire, on viendra vous voir avec grand plaisir. Lionel Séropian, bonjour.
Bonjour.
Directeur général de la région Sud et membre du comité exécutif de Next City. Vous êtes numéro 1 en France pour le logement abordable. En présence du maire, maintenant, Éric Ciotti, je sais que vous connaissez, vous êtes croisé déjà il y a quelques années. Qu'est-ce qu'on peut dire? La marque, aujourd'hui, elle est installée depuis longtemps sur ce territoire, Next City.
Alors effectivement, alors déjà je souhaitais vous remercier de votre présence dans le siège régional de Next City, ainsi que l'ensemble des collaborateurs du groupe, de toutes ces marques, et de l'ensemble des acteurs qui concourent à la production et à la fabrication de la ville, des bâtisseurs, des entrepreneurs, des architectes, des bureaux d'études, des notaires, puisque précédemment on a eu un exposé sur le logement ancien à Nice. Donc toute cette chaîne de l'acte de bâtir, l'acte de faire la ville est présent aujourd'hui. Je les en remercie. Avant de parler de Next City, du marché niçois, puisqu'on y est installé depuis plus de 25 ans, je tiens à souligner la résilience de nos métiers dans un moment très difficile que nous traversons. On parle de crise du logement. Elle est multiforme. C'est une crise de l'offre, une crise de la demande. Et je crois que c'est notre incapacité à tous, toute cette chaîne de production, à fabriquer et surtout à satisfaire aux besoins. Parce que la première des choses que fait Next City sur un territoire, qui plus est sur un territoire qu'elle connaît depuis très longtemps, c'est réfléchir à la programmation de chacun de nos immeubles. Vous parliez tout à l'heure justement, et c'est ce qui est très intéressant dans la démarche, de la réflexion d'aménageur. Next City est aménageur promoteur et promoteur gestionnaire. Donc, dans cette perspective-là, on regarde les choses sur le long terme. Bien sûr qu'il y a le temps court, mais il y a aussi le temps long de la fabrication de la ville et de ne pas créer des îlots autarciques, comme vous l'exprimiez, ou des quartiers qui sont voués à souffrir. C'est aussi cette approche-là que nous menons et que nous tentons de mener en étant partenaires des collectivités. Les élus se succèdent, le territoire reste, les acteurs du territoire, eux aussi, restent. L'ensemble des collaborateurs qui sont ici sont des Niçois, des gens qui travaillent à Nice, donc qui vivent à Nice, dont les enfants vont à l'école à Nice. Donc je pense que c'est important de le souligner, parce qu'on est complètement investi dans la dynamique que vous allez insuffler. En tout cas, on l'espère.
Justement, Éric Ciotti, quand on est sur des mandatures qui durent 5 ans, 6 ans, et que l'immobilier, ce sont des temps longs, vous le savez, vous l'avez dit, des temps longs, c'est une vision du territoire qui peut aller jusqu'à 10, 15 ou 20 ans, voire plus. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion qu'on peut mener quand on est un élu local pour essayer de se projeter au-delà même de son propre mandat ?
Oui, naturellement. Les choix que l'on fait en matière d'urbanisme, ils vont impacter la ville sur les 50 ans à venir, peut-être même plus. Voilà, on a l'image de ceux qui, au 19e siècle, on pourrait parler d'Haussmann, oui. Mais c'est un peu tarte à la crème, mais... Oui. On structurait une ville, des villes pour plusieurs siècles. Donc les décisions qu'on prend aujourd'hui, même si on a le sentiment que c'est moins durable qu'avant, impactent l'avenir des familles, vont donner une nouvelle image de notre ville. Donc il y a cette responsabilité. C'est pour ça que tout à l'heure je disais il y a des logiques budgétaires, notamment sur l'établissement public d'aménagement de la Plaine du Var, qui dit on vend un peu n'importe comment parce qu'il faut équilibrer le budget. Mais moi, je dis, mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce qu'on va faire de ça ?
Exactement.
Voilà. Qu'est-ce que ça va devenir ? Quel mode d'habitat ? Quelle population vont y habiter ? Et quelles conséquences sociales va découler de ces choix ? Voilà, donc il faut sortir de cette vision court-termiste. Globalement, c'est ce qui manque à la politique en France aujourd'hui. On est dans le court-termisme.
Exactement.
Et dans la régulation excessive et dans la fiscalité massive.
Et c'est pas de nature à restaurer la confiance. Hein,
après, je pense que les vraies réponses, elles doivent être aussi, elles sont naturellement dans des choix d'aménagement, d'urbanisme, locaux. Et je veux lever le plus possible des contraintes. J'avais avant de venir encore une réunion avec mon adjointe à l'urbanisme en disant il faut qu'on sorte les permis de construire, il faut qu'on écourte le délai d'instruction, on prend plusieurs mois. On a l'impression qu'il y a des services qui sont là pour bloquer.
Beaucoup sont bloqués actuellement.
Ah oui, énormément. Ouais. Depuis les élections, plus rien ne s'est passé. Ouais. Voilà, donc il y avait une décision de mon prédécesseur.
Mais maintenant, vous arrivez aux affaires, vous allez débloquer ces situations.
On va débloquer, et au-delà, je veux accélérer. Mmh. On est allé au-delà des contraintes du PLU métropolitain. On s'est imposé des. C'est un peu comme la France surtranspose les normes européennes. Nous, on a surtransposé les contraintes réglementaires et législatives nationales. Donc, il faut qu'on aille plus vite dans l'instruction. Il y a des trucs qui ne vont pas. Moi, on me présente un permis de construire où, soi-disant, il y a une école dans la plaine du Var, avec des centaines de résidences, il y a 6 places de stationnement. Voilà. Alors que, bon, tout ça, ça ne passera pas.
Non.
Mais pour autant, quand on est responsable et raisonnable, il faut aller plus vite. On n'a pas besoin de 18 mois d'instruction. Il faut trancher. Il faut qu'on ait des services qui soient là pour aider. Pas pour bloquer. On a l'impression que le type, il est content. Quand il a trouvé la faille, il va dire « Ah non, vous revenez notre fois, quoi. » Voilà. Non, c'est l'inverse qu'il faut faire.
Ça vous rassure.
C'est cette logique que je veux faire.
On a fait 75 villes plus les autres villes que j'en fais à peu près une bonne dizaine chaque mois. J'entends rarement un élu local, et je me permets de le dire, avec cette rencontre. Dans votre métier, qui est quand même un métier dur en ce moment, puisque votre marché s'est réduit de moitié quand même. Il faut quand même le dire. Les promoteurs ont mis un genou à terre, hein, vous le savez.
Bien sûr, mais c'est pour ça que je dis, la réponse, elle est locale. Je parlais de ma responsabilité locale, mais je suis encore parlementaire et je préside un parti national qui a un groupe à l'Assemblée nationale. Oui. Et je veux être un acteur de l'alternance l'année prochaine. Notre pays n'a jamais aussi peu construit de logements. Alors que les besoins n'ont jamais été aussi élevés.
Absolument.
Ça veut dire que ce qui est fait aujourd'hui est un échec absolu. Bon, là, on nous a lancé un petit jambon là, mais qui marche pas du tout.
Ça vient de démarrer.
Oui, mais bon.
Vous n'êtes pas optimiste.
On est à 3000 depuis le début de l'année. C'est quand même très très faible. Hein. Oui. C'est très très faible. Mais on fait ça en fin de mandature.
Mais il y aura un projet de loi logement en mois de juin.
Oui, ouais, bon.
Ah, vous n'y croyez ?
Non, je crois à rien de ce qui se fait en ce moment. ce qui va se faire de façon très durable, c'est l'année prochaine.
Mais l'objectif de 2 millions de logements à horizon 2030.
Aujourd'hui, ceux qui font semblant de gouverner ne gouvernent rien, ils ne décident rien. Ils laissent passer le temps et ils restent en place, c'est leur seul objectif. Donc le reste, c'est de la communication. L'enjeu, c'est l'année prochaine. Parce que là, soit on inverse la tendance, soit on change radicalement de logique, soit on arrête avec l'impôt, la norme, la suradministration, les contraintes contre ceux qui investissent, on crée comme un pays moderne les conditions de la croissance, du développement, mais sur une base radicalement différente. Aujourd'hui, je regardais dans un article. Je ne vais pas citer le concurrent du Figaro parce que j'ai trop de respect. Hein non, c'était dans les Échos.
Sur les normes
législatives et réglementaires, c'est un papier d'hier. Chaque fois qu'on parle d'une loi de simplification, au final, il y a plus de réglementation.
Il y a plus de réglementation.
Voilà, donc ça veut dire qu'à un moment, il faudra casser cette logique. Et la propriété a été l'ennemi. Le propriétaire, dans la vision du président de la République, c'est un rentier. Alors que le secteur de l'immobilier, c'est plus de 10% du PIB. Ce sont des millions d'emplois. Et donc, c'est un secteur qui n'est pas un secteur passif. C'est pas un secteur de rentier. C'est un secteur qui doit être soutenu, accompagné. Et il y a cette vision que la finance doit être favorisée. C'est un peu la logique de l'IFI. Hein, puisque moi, j'étais pour la suppression totale de l'ISF. Mais on l'a supprimé à moitié, mais on a laissé l'IFI. Oui. Ça veut dire que On considère que... On stigmatise le propriétaire.
C'est ça.
Parce que c'est un rentier. Alors que c'est plutôt peut-être l'inverse de ceux qui sont dans d'autres secteurs, quoi. Voilà. Voilà. Et c'est cette logique, je pense, qu'il faut inverser. L'immobilier, le logement, c'est un droit. On ne vit pas bien, on n'a pas une qualité de vie acceptable si son logement n'est pas de qualité. Et donc, ça fait partie de la vie, le logement, l'accès au logement. On a aujourd'hui dans les revenus, pour se loger, il faut consacrer une part de plus en plus importante, c'est plus de 30% de son revenu disponible pour le logement. C'est trop. Ça veut dire qu'il faut alléger la charge. Et c'est ça, cet enjeu. Mais il faut qu'on remette le logement et, j'allais dire, la propriété au cœur d'un grand projet politique.
Lionel Seropian, l'état de la construction aujourd'hui.
Alors, en réponse, simplement.
Oui, pardon, en réponse. Et puis, vous nous donnerez les chiffres.
Deux mots, parce que mon temps de parole... guichet unique. Guichet unique. Alors, c'est deux mots. Guichet unique, ça veut dire une administration qui n'empile pas les services.
Voilà.
Et une porte d'entrée pour traiter d'un dossier. C'est le résumé. On plaide pour ça depuis bon nombre d'années, pour ne pas empiler des procédures et nationales et locales.
Et aller plus vite dans les autorisations d'urbanisme.
Et aller plus vite dans les
si
autorisations.
Si les projets sont conformes à l'esprit d'un aménagement.
C'est le premier point pour faciliter la lecture d'un dossier dans sa complétude. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, Jean Brun, je ne fais pas de commentaire particulier. Ce n'est pas mon rôle. En tout cas, on salue que le logement ait été enfin reconnu comme une cause nationale. Parce que, et je ne fais pas de lien, mais depuis 2020, les marchés n'ont cessé de chuter. Donc, on le sait, on traverse des périodes très difficiles, on s'accroche à ce qui est essentiel pour nous, c'est le logement abordable, et c'est le logement pour tous. La première mission d'un opérateur comme Nexity, c'est de loger les gens sur un territoire. Les sujets d'investissement locatif, les sujets qui sont autres, sont des niches de marché. Maître, vous en parliez tout à l'heure, ce sont des niches. La nôtre, c'est les actifs, les jeunes. C'est ça, notre cœur de marché, c'est celui-là. Et on passe notre temps à se battre pour réussir à donner une offre qui soit décente et qui corresponde à ce qu'on appelle, nous, loyer égal crédit ou crédit égal loyer. Que le prix d'un loyer soit équivalent à celui du crédit.
Alors, vous y arrivez parce que vous avez adopté des méthodes, et aussi même dans le mode constructif, hein, on le voit, mais si on prend les chiffres aujourd'hui du mètre carré neuf, quand on construit, on est sur...
Alors, dans les chiffres, je tiens juste à préciser que vous parliez de réduction de moitié du niveau de production de logements neufs sur la métropole.
Oui.
Là, c'était 2500 en 2021, on est à un peu moins de 1300, d'après les chiffres.
Ah oui, 1300.
Plus de moitié. Et dans un marché qui s'est complètement retourné, puis qui a complètement vu disparaître les investisseurs. Les investisseurs, ce n'est pas mal. C'est plutôt bien, l'investisseur, parce qu'il investit sur un territoire qui fait prospérer. J'entendais vos propos qui correspondent tout à fait à la philosophie qu'on peut partager ensemble, c'est-à-dire laisser les gens investir, laisser l'individu comme acteur économique
et social qui propose.
Et dans la gradation de ce qu'on peut proposer, en tout cas chez Nexity, c'est, et j'oubliais tout à l'heure de remercier les bailleurs sociaux, parce qu'on travaille énormément avec les bailleurs sociaux, vous en parliez tout à l'heure, cette production de logements sociaux, on l'accompagne et on l'aide, et ce sont des partenaires. Ce ne sont ni des concurrents, mais des partenaires qui ont leur propre maîtrise d'ouvrage, et nous accompagnons aussi cette production logement dans un système qui est celui de l'accession à la propriété ou de l'accession à un logement décent.
Alors justement,
vous parliez tout à l'heure... Combien
le prix moyen du mètre carré
si on fait les moyens, prix moyen du mètre carré en 2025, en neuf, sur 1200 réservations, est-ce que c'est significatif ou pas?
C'est déjà pas mal.
C'est 7000 euros.
Ah oui,
c'est entre 5500 et 7500. Voilà.
D'accord. Alors, là, vous avez un avantage, c'est que vous utilisez le système, des systèmes, le logement intermédiaire, le LLS, justement, les dispositifs qui permettent d'avoir, je pense que monsieur le maire, vous y êtes sensible, des contreparties. J'investis, j'ai un avantage fiscal ou j'ai un certain investissement, en échange de quoi j'ai des loyers maîtrisés. Et je prends le prix du moyen du mètre carré neuf, qui est quand même assez élevé. Et avec les dispositifs que vous mettez en place, on peut ne pas dépasser entre 15 et 17 euros du mètre carré.
Le seul dispositif qui est à la main des opérateurs, c'est la quadrature du cercle d'arriver à fabriquer et à mettre sur le marché des logements qui sont à un prix qui correspondent au portefeuille des administrés. Ça, c'est notre seul sujet. Ensuite, le logement a toujours été aider ou accompagner en France. On le critique pas. En tout cas, c'est comme ça. On hérite d'une situation, on la fait perdurer, on l'adapte en fonction
mais
des situations.
Mais quand vous dites aider, c'est pas sous perfusion fiscale.
Pardon ?
C'est pas sous perfusion.
Ça l'a été.
Vous pensez ? Ah d'accord.
Ça l'a été. Oui, ça l'a été peut-être un petit peu. C'est pas le propos. Le propos aujourd'hui, c'est cette équation-là, elle provient d'un premier sujet qui est la maîtrise du foncier et de la qualité des fonciers maîtrisables. À quel prix ? La première donnée, parce que c'est une denrée rare qui est libre, parce qu'elle appartient à des propriétaires privés. Donc c'est un marché qui est libre. Mmh. Mais ensuite, il faut que les prix de sortie correspondent à ce que gagnent les gens.
Ça,
ensuite, les dispositifs d'accompagnement, ils sont multiples, certes. Mmh. Ils ne sont pas massifs par rapport aux besoins, parce que les besoins ne sont pas remplis. J'en veux pour preuve l'attention sur les loyers et surtout les prix qui augmentent dans le libre. Donc un marché tendu égale un marché...
Parce que la situation, elle est compliquée pour les jeunes actifs, elle est compliquée pour les jeunes. Vous avez d'ailleurs mené plusieurs sondages sur la question.
Sur les sondages,
je voudrais aussi insister sur le fait que vous, Nexity, avec ce que vous appelez, je ne sais pas si on peut le dire, le New Nexity, vous avez changé de braquet, vous avez aujourd'hui des dispositifs sur lesquels vous êtes complètement adapté. D'ailleurs, vous êtes adapté au marché. Qui a été quand même
et
sévèrement chahuté.
On parle exclusivement du marché du logement aujourd'hui, mais on a à Nice en ce moment un dossier en instruction, qui est un hôtel. Donc on contribue aussi à l'activité tertiaire. Les bureaux dans lesquels vous êtes aujourd'hui, et qui est le fleuron de la région, est un immeuble de bureaux. Donc ça contribue aussi de l'activité de l'opérateur immobilier que nous sommes.
Bien sûr.
Le sondage auquel vous faisiez référence sur
le sondage
Odoxa des jeunes, en fait... qui a été mené sur la région PACA. C'est pas spécifique, mais bon, on peut par analogie considérer que dans les Alpes-Maritimes, c'est un peu la même chose. 63% des 18-34 ans ont des difficultés à se loger. Ça, c'est le premier point. C'est une donnée assez factuelle. 30% d'entre eux ont renoncé à candidater à une offre d'emploi.
Là, c'est vrai. Absolument. Là, qui ne viendront pas.
19% renoncent à avoir un enfant supplémentaire. Et 17% d'entre eux changent de commune. On parlait des mouvements pendulaires tout à l'heure et du besoin de recréer de la proximité entre les lieux de vie et les lieux de travail. Ça aussi, c'est un sujet chez nous, chez Nexity, que nous tentons de nous approprier pour effectivement accompagner les collectivités en disant voilà, à cet endroit-là, voilà ce que nous mesurons.
D'accord.
En vendant 13 000 logements en France chaque année, on a quand même un peu de recul. En étant implanté dans chacun des territoires, en connaissant commune par commune, je crois qu'on est un allié et un acteur qui peut accompagner le redéploiement sous toutes ses formes.
Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez une approche sociologique. Alors, vous avez raison. Vous avez une approche qui est multipolaire. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous parliez des résidences seniors, résidences étudiantes. J'ai relevé une opération que vous menez actuellement, si je peux me permettre, c'est l'opération que vous appelez Villa Bianca, qui illustre parfaitement, si je peux me permettre également, l'illustration de l'ADN de cette nouvelle formule Nexity qui existe aujourd'hui.
Une nouvelle formule, l'ADN Nexity l'a toujours été. Ce New Nexity, en fait, c'est notre communication qui est comme ça, c'est-à-dire que, en fait, c'est la capacité d'une équipe.
Vous avez une présidente emblématique qui a porté ce changement.
C'est la capacité à répondre aux besoins d'un territoire. C'est surtout ça. C'est-à-dire que ce soit en tertiaire, en réhabilitation, en rénovation, en transformation, ou en pure... métier classique de
alors, qu'est-ce que c'est que la Villa Bianca, alors ?
La Villa Bianca, c'est une opération d'une soixantaine de logements qui a été faite dans le quartier nord-est de Nice, rue Pierre Barré.
Vous connaissez, monsieur le maire, l'opération Villa ?
Et donc, en fait, c'est une opération qui a été faite dans le diffus. C'est-à-dire que les équipes qui sont ici ont bataillé pour maîtriser un foncier pendant des années. Je vous passe les procédures liées au recours, parce qu'on n'a pas évoqué ce temps long-là. Il est lié au passage de l'autorisation de construire à la réalisation, qui lui aussi souffre d'un certain nombre de procédures.
Ce qu'on appelle purger les recours.
Et donc cette opération, elle est assez exemplaire dans sa programmation, parce qu'il y a des logements libres, classiques, qui sont vendus à un prix... qui correspond à ce fameux loyer égal crédit, puisqu'on est un peu moins de 5 000 euros de mètre carré. Donc ça donne un prix par rapport au prix qu'on a annoncé tout à l'heure, qui est relativement plus bas. Il y a du logement social classique, type SRU, et il y a du logement intermédiaire. Le logement intermédiaire, vous l'évoquiez tout à l'heure, ça permet de mettre de l'offre. Alors c'est un investisseur qui achète, un bailleur en l'occurrence, qui achète et qui met à l'offre des logements.
C'est une super solution, le logement intermédiaire. trop riche pour accéder au logement social, pas assez pour accéder au logement privé. Oui. Monsieur le maire, le logement intermédiaire, c'est aussi... Alors, c'est pas la réponse à tous les maux de la crise du logement, mais vous en pensez quoi, vous ? C'est une bonne solution ?
C'est naturellement une bonne solution.
Bien sûr.
C'est une solution qu'on doit porter, privilégier, soutenir. Le logement intermédiaire, c'est le logement pour les actifs, d'ailleurs. Oui. Je parlais d'évolution potentielle. Moi, je pense que demain... Même le logement social doit être tourné d'abord vers les actifs. Et je dirais d'abord vers les actifs nationaux. C'est sans doute un propos iconoclaste, mais voilà, c'est un sujet extrêmement important.
Merci beaucoup.
Juste une dernière fois, sur la programmation qui caractérise bien le New Next City, nous avons fabriqué une pension de famille. Une vingtaine de logements sur Villa Bianca. Oui. Et donc, ça aussi, ça contribue. Okay.
J'aime beaucoup les pensions. Une vision balsacienne des pensions de famille, etc. Assurez-moi, il n'y aura pas Vautrin dans cette pension de famille. Voilà. Voilà. C'était un vrai plaisir de vous faire exprimer, justement, toutes ces idées. Et je constate avec beaucoup de plaisir que vous êtes parfaitement aligné avec la politique mise en place par Éric Ciotti. Je vous propose un applaudissement pour Lionel Sirotla. Il va être l'heure. Il va être l'heure de nous quitter. Vous savez, Diderot disait qu'il y avait deux types d'hommes dans le monde. Il y a les crédules et les incrédules. Il disait que souvent les incrédules ne voient le monde que tel qu'il est. Tandis que parfois les crédules, qui sont un défaut parfois de gens d'esprit ou de gens visionnaires, ne voient le monde tel qu'il pourrait être. Je pense, monsieur le maire, que vous voyez définitivement les choses telles qu'elles pourraient être. Et finalement, pour paraphraser ce que disait le général de Gaulle, là où il y a une volonté politique, il y a un chemin. Et ce chemin, quand j'entends votre discours, alors j'espère que ça va se faire, mais voilà. Alors tout à l'heure, j'ai entendu un mot, je ne peux pas résister, je suis journaliste. Vous avez dit l'année prochaine, il va y avoir des choses que je vais porter, etc. Est-ce que je peux sous-entendre quelque chose ou...
Non.
Voilà, non mais voilà, pas bien que je rebondisse en tout cas, etc. Monsieur le maire, vous avez le mot de la fin. Encore une fois, je voudrais qu'on remercie vos équipes qui ont été vraiment adorables avec nous. Je voudrais remercier les équipes de Next City qui ont été vraiment, voilà, Steven, toutes les équipes, voilà, qui sont avec nous, bien évidemment, les équipes du Figaro et les équipes de Radio Immo à la technique. Monsieur le maire, c'est à vous.
D'abord, je veux vous remercier parce que vous donnez aujourd'hui un beau coup de projecteur sur notre ville, sur ses atouts, sur ses talents, sur son excellence. Et vous me permettez aussi de porter ce chemin que vous évoquiez, qui est ouvert. Nous avons un enjeu, on est à la croisée des chemins. Nous subissons des contraintes, des difficultés qui sont des contraintes nationales. Mais nous devons aussi nous en extraire pour continuer à faire de Nice une ville tournée vers l'avenir. On a beaucoup de défis à relever. On a un passé qui est très riche, qui est prestigieux. On ne doit pas le dénaturer, mais on doit s'en inspirer pour préparer l'avenir. Et je veux que ça soit une ville moderne, une ville innovante, entreprenante, tournée vers la jeunesse, vers l'innovation. On a besoin de grandes écoles, on a besoin de recherche, on a besoin d'une université puissante, d'une activité tertiaire forte. Et tout cela doit s'accompagner de façon parallèle à une offre de logement qui soit dynamisée, qui soit soutenue. Et voilà, nous mettons dès le début de ce mandat les bases de ce soutien. Et j'ai la faiblesse de croire que un des premiers vecteurs de ce soutien, c'est la modération fiscale. C'est la première mesure que nous avons prise et dont je suis fier.
Merci, Eric. Voilà, le clé de la ville à Nice, c'est terminé le mois prochain. Olivier, on sera
à Lille.
On sera à Lille, voilà, on passe de Nice à Lille. Et ensuite, on ira du côté de Lyon. Les clés de la ville, c'est la ville qui met le point, le focus sur les territoires avec les maires de France que nous aimons particulièrement. Prenez soin de vous, on se retrouve bientôt dans un nouveau numéro des clés de la ville.